7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, c'est l'aventure, le voyage, mais alors dans les grandes largeurs. À la découverte des étendues sauvages australiennes avec trois montures et un chien. Bonjour Aliénor Le Gouvello.
Bonjour Emmanuel.
En Australie, vous êtes désormais connue comme la Française qui a réussi l'une des pistes les plus difficiles au monde, la piste nationale, plus de 5300 km du sud au nord. Vous l'avez effectuée dans le sens inverse, hein, oui. Donc du sud au nord, en raison du climat d'ailleurs. 13 mois à cheval et à pied, parfois dans une solitude totale, des conditions extrêmes. De grosso modo de Melbourne à Cooktown, vous avez traversé 18 parcs nationaux, 53 forêts domaniales. Vous avez longé la grande chaîne de montagnes de la cordillère australienne avec des pics à plus de 1600 mètres d'altitude. Alors j'ai dit à cheval, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il s'agit de chevaux sauvages qui tiennent une place essentielle dans votre aventure que vous allez nous raconter. Vous avez publié Sur la piste sauvage aux éditions Artaud. C'est un défi à la fois technique, humain. Et puis, vous racontez aussi bien comment, à quoi ressemble la vie dans le bush, dans ces gigantesques fermes d'élevage dont les clôtures peuvent mesurer près de 80 km de long. Alors c'est vrai que pour nous en Europe, ça nous semble incroyable. En deuxième partie d'émission, on donnera la parole à un autre aventurier qui se raconte, Guirec Soudé, jeune breton parti seul à 21 ans pour naviguer autour du monde avec une compagnie très spéciale, Monique, qui partage ses joies, ses peines, ses rencontres. Monique est une poule, une vraie poule. Et avec une poule, on peut survivre à bord d'un bateau au bout du monde. Et puis en fin d'émission, notre rendez-vous mensuel avec le magazine Marie-Claire, la journaliste Sonia Després nous parlera de la conscience environnementale des enfants. Vous nous direz d'ailleurs aussi si en Australie cette conscience environnementale et de ce combat pour le climat mené à l'heure actuelle par des millions de jeunes autour de la planète, souvent adolescents, vous nous direz aussi ce qu'il en est. Je sais que le climat est quelque chose qui vous touche tout particulièrement après avoir passé 13 mois vraiment dans la nature la plus totale.
7 milliards de voisins. Et la planète se barre.
Aliénor Le Gouvello, pourquoi le National Trail australien ? Vous viviez en Australie depuis plusieurs années déjà. Vous étiez arrivé à la faveur d'un voyage. Vous êtes resté, bon, mais ça comme plein de Français. Mais pourquoi cette idée folle de traverser l'Australie du sud au nord ?
Eh bien, pourquoi pas. J'aime beaucoup l'aventure, j'aime les défis. J'ai fait plusieurs voyages de ce genre en moto, à cheval. Et
ailleurs, dans d'autres pays.
Ailleurs, dans d'autres pays, tout à fait. Un en Mongolie, où j'ai fait presque 900 km autour du Lake Hovsgol. Un autre voyage en moto de Sibérie à Paris, en sidecar. Bref, j'aime les voyages, j'aime les aventures un peu folles. Et c'était une amie qui m'avait parlé de ce fameux National Trail. Ça a un peu planté comme une graine dans ma tête qui ne m'a pas quittée. Au départ, je m'étais dit que j'en ferais peut-être quelques sections, et puis au final, c'est devenu une obsession, et j'ai décidé que je voulais faire le truc en entier.
Le truc, comme vous dites, 12 sections, plus de 5300 km. C'est un trail qui est très connu en Australie, une piste qui est très connue.
Non, pas tant que ça en fait. C'est un trail qui s'est développé il y a à peu près 30 ans pour essayer de relier les routes de bétail en Australie du sud au nord sur la côte est.
C'est-à-dire qu'en fait c'est la partie la plus peuplée aussi d'Australie,
oui,
si on peut dire, hein, parce
oui,
qu'il y a quand même pas mal de jours où vous restez sans voir âme qui vive.
Oui, oui, absolument.
Et donc, pourquoi avec des chevaux sauvages qu'on appelle les Brumbies?
Eh bien, j'ai eu une fascination pour ces chevaux en travaillant dans les communautés aborigènes dans lesquelles je travaille, dans le centre du désert de l'Australie, des endroits très très isolés. Il y en a beaucoup qui sont sauvages. L'Australie compte le plus large nombre de chevaux sauvages au monde, qui sont considérés comme un nuisible par le gouvernement, qu'ils ne sont pas natifs à l'Australie, ils sont venus avec les premiers pionniers, qui se sont ensuite redéveloppés tout à leur mérite dans tout environnement de l'Australie, et qui sont maintenant plus d'1 million. En large nombre dans les les parcs nationaux, ils peuvent éventuellement faire des dégâts aux écosystèmes fragiles, la biodiversité, etc. Donc, il faut pouvoir gérer leur population.
Qu'est-ce qui pose comme problème, en fait, ces chevaux aujourd'hui? Pourquoi on considère qu'ils sont nuisibles?
C'est vraiment pas prouvé, mais apparemment, parce que comme ce sont des animaux avec des sabots, dans des écosystèmes fragiles comme des mousses ou des petites grenouilles vertes qui sont des espèces très en voie de disparition, etc. Apparemment, sur les points d'eau, ils peuvent faire des dommages. Donc, de gérer leur population, c'est normal. Mais vraiment, je voulais promouvoir une manière de faire qui est plus humaine que de l'abattage par hélicoptère, ce qui est arrivé plusieurs fois.
Ils sont tirés avec un fusil à lunettes, en fait, pour les supprimer.
Oui, mais à l'hélicoptère. Donc, c'est difficile de faire un shoot bien. Et souvent, les chevaux mettent des jours à saigner avant de mourir. L'association d'où mes chevaux viennent, la Guy Fawkes Heritage Horse Association, eux font un programme fantastique d'attraper les chevaux dans le parc, de les revendre au public ou de les envoyer à l'abattoir s'ils ne sont pas en bonne condition, mais au moins eux sont abattus de manière humaine.
Vous avez démontré avec ce défi, cette route, cette piste de 5300 km que vous avez parcouru avec trois chevaux, que non seulement c'était des chevaux qui n'étaient pas bons à rien aujourd'hui, mais qu'ils avaient une rudesse à toute épreuve, en fait, qu'ils pouvaient tout supporter par rapport à des chevaux classiques.
Absolument, ils ont une vraie robustesse et c'est vraiment grâce à eux que je pense que j'ai pu réussir à finir ce défi de 5330 km. Ils n'ont subi pratiquement aucune blessure et sont restés en très bonne condition. Les chevaux sauvages dans la nature ayant survécu à la sélection naturelle font que ce sont des chevaux extrêmement endurants, robustes, avec des bons pieds et un tempérament vraiment intelligent. Il se blesse pas comme un cheval domestique qui peut faire des bêtises et se blesser très facilement. Ces chevaux, en 13 mois de route, ils ne se sont pas blessés une seule fois.
Alors, on dit chevaux sauvages. En fait, ils sont dressés. Ils ont été dressés en partie par vous, d'ailleurs, mais pas tellement de temps avant que vous partiez.
Pas qu'en partie, que par moi, les deux hongres en tout cas. La jument, je l'ai achetée un peu à la dernière minute parce que j'ai essayé d'en dresser deux autres, mais qui avaient un tempérament très sauvage et assez dominant. Mais j'ai passé 6 mois à les dresser, les deux hongres, River et Cooper, le Palomino et l'Isabelle. Et c'était une aventure en elle-même parce que vraiment de travailler avec des chevaux sauvages, c'est complètement différent. Mais c'est une expérience magnifique dans le sens où une fois qu'on gagne la confiance d'un cheval sauvage, il y a vraiment une relation, une connexion qui est vraiment magique et spéciale. Et après de passer 13 mois ensemble sur la route, on devient vraiment une famille, en fait.
Combien de personnes ont réussi ce parcours seules, comme vous l'avez fait?
Eh bien, je n'ai pas suivi exactement le nombre. J'ai fini il y a presque 2 ans. Il y a eu d'autres personnes qui l'ont fait depuis. Mais des gens qui l'ont fait en solo, avec des chevaux, il y en a peut-être une trentaine. Parfois, ils sont accompagnés, parfois tout seuls. À peu près une trentaine.
Des femmes?
Des femmes, il me semble qu'il y en a eu. Je sais qu'il y en a une autre qui l'a fait toute seule aussi, et je dois être la deuxième.
Comment on se prépare à passer ces 13 mois, alors pas seul en permanence, il y a des moments où vous traversez des petites villes, vous revenez à la civilisation, évidemment vous êtes approvisionné, il y a toute une logistique, mais comment on prépare un tel défi?
C'est énormément de préparation, j'ai mis 1 an et demi à me préparer avant de partir, donc comme je vous ai expliqué, il y avait le dressage des chevaux, mais surtout aussi la recherche du National Trail. Il y a 12 petites cartes avec des dessins, mais il n'y a pas une vraie carte, il faut vraiment rechercher le chemin, comprendre les climats, où passer, comment, où est-ce que je vais trouver de l'eau pour pouvoir abreuver mes chevaux, de la nourriture pour eux, puis organiser mes rations de nourriture pour moi. Je pouvais transporter à peu près 3 semaines de rations, 3 semaines, 1 mois. Parfois, j'étais dans la nature pendant plus longtemps que ça. Donc, il fallait que je m'envoie des paquets de rations dans un ranch ou quelque part en chemin pour pouvoir les prendre au passage. Et puis aussi...
Parce qu'il n'y a pas de l'herbe partout, contrairement à ce qu'on peut imaginer.
Non, il n'y a pas d'herbe partout et parfois, il peut y avoir de la sécheresse qui fait que les pâturages n'ont aucune nutrition pour les chevaux. Donc dans ces cas, je continuais à tracer la route jusqu'à ce que je trouve de l'herbe ou un endroit où je pouvais compléter leur alimentation.
Comment on organise un minimum de sécurité quand on part dans ces conditions-là, traverser l'Australie seul avec 3 chevaux, un chien pour certaines parties du parcours d'ailleurs, mais pas tout le temps, parce que les chiens ne sont pas admis dans les parcs nationaux, me semble-t-il, non?
Oui, tout à fait. L'Australie est très stricte avec ce genre de choses, mais il était avec moi la plupart du temps.
Plus ou moins légale, c'est ça?
Tout à fait. Oui, donc la sécurité, en fait, il faut vraiment être préparé parce que le bush... En Australie, peut-être assez cruel. D'abord, la chaleur, les différents climats. J'ai eu des tempêtes de neige en plein été. Et puis surtout, la flore et faune qui peut être assez meurtrière, comme les serpents qui peuvent vous arrêter le cœur en 3-4 heures. J'étais très préparée. J'avais à ma ceinture d'abord une petite... ça s'appelle un spot tracker, une devise qui se met à la ceinture et qui a un bouton à déclencher pour aide. Où si j'étais quelque part où j'avais besoin d'aide, ça m'envoie un hélicoptère en quelques heures. Et ça avait aussi un bouton pour dire je suis saine et sauve pour la journée, je fais mon campement avec les coordonnées, et ça envoyait ça à l'expédition, à ma manager d'expédition. Puis j'avais un téléphone satellite et aussi j'avais deux trousses de secours, une pour mes animaux et une pour moi, assez élaborée avec tout ce dont j'avais besoin.
Ça ne vous a pas empêché d'avoir quelques petits problèmes de santé quand même, hein, malgré votre résistance?
Oui, tout à fait. Vers la fin, j'ai contracté une fièvre tropicale que j'ai attrapée par un moustique. Après un cyclone assez sérieux, cyclone Debbie, qui a créé de nombreuses inondations dans le nord de l'Australie, j'ai contracté cette fièvre tropicale qui atteint les articulations, qui donne une douleur en plus d'une fièvre. Et j'avais fait plus de 4000 km et j'étais pas prête de lâcher l'affaire. Et j'ai continué, mais ça m'a vraiment achevé physiquement. Et après avoir continué avec cette fièvre tropicale, je finis une deuxième fois à l'hôpital avec un staphylocoque qui m'a menacé de presque me tuer, ça laisse répandre dans mes os, l'infection, dans les os, pardon. Donc deux fois où je me suis retrouvée très mal, et quand c'est quelque chose qui demande une telle santé pour un exercice aussi physique, c'était vraiment difficile les trois derniers mois en étant malade.
Ça veut dire quoi au quotidien ce périple? Parce que vous n'êtes pas sans cesse seul, il y a des gens qui viennent vous rejoindre, vous faites des rencontres. Mais comment on gère ces périodes de solitude, le bivouac, cette routine qui doit s'installer malgré tout dans ces conditions extrêmes?
Oui, tout à fait. Mais c'est une routine et une discipline intransigeante. Tous les jours, j'avais... des choses que je faisais religieusement, comment monter mon camp, prendre soin de mes chevaux,
ça, trouver ça peut être en pleine montagne, hein, tout ça, toute seule.
Ah, mais la plupart du temps,
toute seule. Ou en forêt, des forêts tropicales.
Oui, dans tout genre de paysage ou de décor. Il fallait que je trouve de l'eau, des pâturages pour mes chevaux, que je monte le camp, que je m'occupe de mes chevaux, que je me fasse de la nourriture, que je trouve du bois, etc. Mais voilà, la routine s'installe, on trouve un système et on a une discipline intransigeante tous les jours de faire toutes ces choses qu'il faut faire pour prendre soin de soi, de ses chevaux, et de repartir le lendemain. Et c'est tous les matins, ça me prenait presque 3 heures de défaire mon camp et de m'occuper de mes chevaux et d'être prête à partir. Mais voilà, donc c'est un peu une mission et c'est une discipline et une volonté dans la tête de faire ça tous les jours.
Vous aviez déjà effectué des défis de ce type à cheval, notamment en Mongolie. Vous aviez vécu avec les aborigènes, vous l'avez dit, vous avez accompagné des enfants aborigènes sur des missions sociales. Que vous ont appris les aborigènes qui vous a servi pendant cette aventure de 13 mois ?
Ils m'ont appris beaucoup de choses, mais notamment d'être vraiment à l'aise dans la nature, parce que je suis allée vivre dans ces communautés aborigènes pour travailler avec les enfants, dans des endroits parfois à 12 heures de la ville la plus proche, dans le désert, donc vraiment isolé.
À 12 heures de voiture.
12 heures de voiture, dans le désert, sur des routes en terre. Donc vraiment apprécier l'isolation, la nature, et être à l'aise dans la nature, d'aller chasser pieds nus, des kangourous, des gros lézards, des fourmis à miel, des gros vers de terre, toutes sortes de choses. Mais vraiment de me sentir à l'aise dans la nature, et vraiment il n'y a rien qui me fait peur dans la nature. Je me suis retrouvée face à des crocodiles, des serpents, des choses. Mais vraiment dans la nature, je suis à l'aise, et malheureusement l'unique chose qui m'a fait peur une ou deux fois pendant ce périple sont les humains. Quand on est une femme qui voyage seule, c'est de se retrouver face parfois à des hommes qui n'inspirent pas confiance. C'est l'unique fois où je me suis sentie assez vulnérable.
Ouais. Alors, il y a quelques dingues, hein, en effet, que vous rencontrez, mais qui ne sont pas forcément toujours les plus dangereux. Mais il y en a un, là, vous citez, à la date du 12 août, je suis dans une forêt, je tombe sur un chasseur de sangliers solitaires dont l'originalité est de poursuivre ses bêtes avec des chiens féroces sans fusil. Il les affronte, pour ainsi dire, à main nue, les ligote, prend des photos, puis les relâche afin de s'adonner à ce sport original. Cet Australien qui affiche une quarantaine fringante s'est fait un campement doté d'un feu entouré de pierres. frontière où il se rend régulièrement. Voilà, ça c'est les petits week-ends en Australie. Hein, c'est...
Les gens peuvent être un peu farfelus, oui. Il y a beaucoup de ça en fait, de la chasse aux sangliers où nous on a l'habitude de chasser avec des fusils plus en Europe. Eux, le sport c'est de chasser à main nue un sanglier et de le relâcher ou de l'abattre après. Mais à main nue, c'est ce qui est quand même très très sportif et dangereux.
Vous restez avec nous, Aliénor Le Gouvello. Bien sûr, vous avez fait aussi énormément de rencontres. Et puis, vous avez pu aussi peut-être mieux comprendre, ou en tout cas, vous nous racontez bien dans votre livre sur la piste sauvage, à quoi ressemble cette vie dans le bush. Non pas quand on parcourt ce National Trail, cette piste de 5300 km, mais pour les exploitants agricoles, pour les éleveurs, éloignés de tout, à quoi ressemble la vie quotidienne dans le bush en Australie.
Neath the gum trees by the roadway, as the sun went down out back, I lay at rest in peaceful reverie. Then I thought of all the songs I'd sung about the outside track, and that is how this vision came to me. As I dozed there in the shadows, neath the gum trees by the road, I heard an angel singing there on high. Just welcomed into heaven was a soldier and his dog. Nevermore would he and Rusty say goodbye. Then along the road came Farmer Gray with his dancing Jersey cow. But you'd never know this famous pair, they've gone all high brown now. But their harvest days are over, sad it is to say. But they're making much more money since the boogie came their way. And the swaggy who liked good baccy was smoking a big cigar and bragging about the fights he'd had in town. Then the ghost of old King Bundawal with a wild old tribal yell hit him on the head with a killer boomerang. Frankie and Johnny next came by, fighting the way they do. She said, Johnny, man, you've been making eyes at that little girl dressed in blue. He said, I know I've done you wrong, been doing so for years. And the road I travel now is down that lonesome road of tears. Then along came Farmer Wilson, dressed in a bathing suit. A life belt hanging round his neck and a flipper on each boot. He says, well, things ain't been the same since a distant day gone by, when a certain character wrote a song about the wet month of July. So I says to Farmer Wilson, do you reckon I'm to blame? His eyes went wild and his whiskers shook and his face went red as flame. Yes, you're the bloke that wrote the song that's made my farmer see. And they're catching fish with spinners now where my cowyard used to be. Neath the gum trees by the roadway, as the sun goes down out back, I lay at rest in peaceful reverie. Then I thought of all the songs I'd sung about the outside track, and that is how this vision came to me.
Slim Dusty, Aliénor Sauvage, vous connaissez ?
Slim Dusty, je connais très bien, oui.
Countryman, australien. Along the Road of Song. Je vous laisse dire le titre, allez, vous le direz mieux que moi avec l'accent.
Along the Road of Song.
Le bush au quotidien, c'était pas l'objet de votre livre, bien sûr, Aliénor Le Gouvello. C'était de raconter ces plus de 5300 km à travers le bush australien sur cette piste que vous avez d'ailleurs traversée. Donc, normalement, c'est du nord au sud. Vous avez choisi de la prendre à l'envers, hein, de commencer par le sud.
Oui, à cause du climat, il fallait que je parte en été pour franchir les montagnes au sud.
Donc, on démarre dans la région de Melbourne, en fait.
Au nord de Melbourne, à 60 km, oui.
C'est ça, oui, c'est ça. La région, c'est 60 km. Et puis ensuite, on arrive tout au nord.
Tout au nord, presque à la pointe, mais pas tout à fait, à Cooktown.
Et une fois que vous avez fait le démarrage, vous avez fait le plus dur, hein, c'est ce que vous dites. La première section, il en reste 11, puisqu'il y a 12 sections. La plus difficile, c'est par là que vous avez voulu commencer.
Ben oui, malheureusement. C'était très difficile au début, parce que ce sont les montagnes... sont des montagnes assez rudes, assez isolées, où parfois l'eau peut être difficile à trouver. Et quand on commence une expédition, bien sûr, il y a une période d'ajustement où on apprend à comment tout fonctionne, à voyager en harmonie avec les chevaux, etc. Mmh. Donc de partir par ce début, ça a été un vrai challenge. Et une fois qu'on a passé cette section, je me suis dit, ouf, si on a réussi à faire ça, on va réussir à faire le reste, j'espère.
Ouais. Alors, vivre en harmonie avec les chevaux, ça a l'air très simple, là, comme vous le dites. En réalité, c'est extrêmement complexe. D'abord parce que ce sont des chevaux sauvages, mais que vous êtes en permanence préoccupé à la fois de vos relations avec les chevaux, mais aussi de leur santé, de la façon dont ils parviennent à gravir les étapes difficiles. Comment ça s'est passé? Quelles étaient les plus grosses difficultés?
Ma plus grande pression, c'était de pouvoir subvenir à leurs besoins, donc trouver de l'eau et de la nourriture tous les jours pour eux. Parfois, ça n'a pas été facile, mais c'est au quotidien, c'est de vraiment être attentive de leur santé, de leur bien-être, de comprendre ce qui se passait avec eux, leurs pieds, qui pour les chevaux c'est un atout, c'est parfois très fragile, et puis de faire bien attention à leur dos. J'avais du matériel de très bonne qualité et j'avais ce système de rotation qui était très important, donc les trois chevaux, un cheval de bas, un cheval de monte et un cheval qui était au repos tous les jours, ce qui me permettait de les changer chaque jour et de donner tous les jours un cheval au repos, et s'il y en avait un qui avait une petite blessure, quelque chose, de pouvoir lui donner quelques jours de répit et travailler les autres. C'est grâce à ce système vraiment que je pense que mes chevaux ont réussi à finir ces 5000 km.
Les relations que vous développez avec eux?
C'est devenu fusionnel. Oui. Je les aime passionnément, ils sont devenus ma famille. Et vraiment, ça a été magique, la relation que j'ai développée avec eux, de les dresser de chevaux complètement sauvages, intouchés par l'homme avant, à passer ces 13 mois de vivre ensemble, de 24 heures sur 7, faire la vie de corps ensemble et de traverser l'Australie ensemble.
Vous dites à la fin, ils comprennent quand on est tout près de l'arrivée.
Et oui, ma jument, je pense que tous les jours, quand on arrivait, je savais que j'arrivais proche de l'endroit où je voulais camper, je pense qu'elle sentait l'appréhension en moi et qu'elle le sentait, elle avançait de pas plus rapide et les deux jeunes aussi la suivaient. On ressent les émotions les uns pour les autres et qu'on partage un lien très fort.
Ouais. Ils s'en sont peut-être dit quand même à certains moments, mais qu'est-ce qu'elle nous emmène dans cette galère, non?
Ah oui, plein de fois. Moi aussi, d'ailleurs.
Vous avez lu dans leurs pensées, eux aussi.
Oui.
Vous avez fait beaucoup de rencontres dans le bush australien. Ce qui est évidemment assez fascinant pour nous en Europe, c'est la taille des exploitations, les distances, les hélicoptères pour parcourir des distances banales sur n'importe quel autre continent, d'ailleurs pas seulement en Europe. Vous traversez des parcs nationaux, mais aussi ce que vous appelez des stations privées. Qu'est-ce que c'est exactement?
Ce sont des grands ranchs en fait, donc des ranchs de bétail. En Australie, les propriétés sont juste gigantesques. Au nord, dans l'état du Queensland, il y a des propriétés qui font plus d'un million d'hectares, juste pour vous donner une idée. Et puis pour vous donner un autre exemple, par exemple la propriété de mon partenaire, de la famille de mon partenaire que j'ai rencontré sur mon trek d'ailleurs. Ça fait que 6000 hectares, c'est pas énorme, on a 2000 têtes de bétail.
6000 hectares, ouais, toute petite exploitation.
C'est petit ici, là-bas, oui. Mais son père, qui avait une autre propriété auparavant, pour se déplacer, lui est devenu pilote avec un petit avion pour aller d'une propriété à l'autre, parce que les distances sont gigantesques, en mettant tous les chiens de berger dans l'avion, aller d'une propriété à l'autre pour ramener le bétail en avion. Mais c'est aussi surtout ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la gentillesse et la générosité des gens dans ces endroits isolés. Les gens sont extrêmement généreux et gentils et prêts à aider. Dans les moments de difficulté, j'ai rencontré des gens que j'ai appelés plus tard dans mon livre les Trail Angels, les gens qui apparaissent quand on a vraiment besoin d'un coup de main. Et je suis souvent restée dans les stations, les gens m'ont proposé une nuit, une douche, un repas, et en échange, je passais une journée où je pouvais travailler, les aider à la ferme.
Comment c'est possible dans un endroit où les gens sont si éloignés? Certes, il y a des téléphones, hein, mais vous dites surtout, ce qui fonctionne, c'est le bush telegraph.
Oui, donc les téléphones souvent ne fonctionnent pas. Le bush telegraph, ce sont les fermiers entre eux qui, en se passant sur une route à cheval ou en se téléphonant d'une maison à l'autre, se font passer les nouvelles. Et souvent, quand je passais dans un ranch, les ranchs qui suivaient étaient prévenus de ma venue et souvent venaient à ma rencontre. Et ça, c'est le bush telegraph.
Oui, le ranch suivant qui peut être à plusieurs jours ou semaines.
Oui, plusieurs jours.
De marche
ou... Oui, de marche, tout à fait.
Ou
même de voiture, oui.
Alors, évidemment, vous le racontez dans votre livre, vous avez rencontré celui qui va devenir votre mari, Mitch,
oui.
The famous Mitch.
Oui, tout à fait.
Qui lui aussi apparaît un peu comme ça, par magie, il descend d'un tracteur, pieds nus, il vous demande « Est-ce que c'est vous, la Française, qui traverse l'Australie sur la piste nationale ?»
Oui, c'était totalement improbable.
Ça s'est vraiment passé comme ça?
Ça s'est vraiment passé comme ça, à une fourche dans la route. C'était juste en dehors de la propriété de sa famille. Il était sur son tracteur bleu, j'étais avec mes trois chevaux et on a parlé 5 minutes. Il m'a dépassé en camion, il m'a proposé si j'avais envie d'une bière à la fin de la journée fraîche. Alors moi, évidemment, ayant été au moins 3 semaines à ce moment-là, toute seule dans la nature, j'ai dit oui. Et voilà, ça a commencé comme ça. Il est venu me retrouver après en hélicoptère, parce qu'il est pilote d'hélicoptère, et m'a emmené sur une île pour faire une petite éclipse de 2 jours au bord de la mer, parce que la mer me manquait. Bref, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois après, sur mon périple, il est venu me voir quand il pouvait. Et moi, j'étais vraiment déterminée de finir mon défi. Et à la fin, il est venu me chercher avec son camion et il m'a ramené chez lui. Voilà.
C'est aussi simple que cela. Comment vous êtes perçue par les Australiens qui vous ont rencontré, qui ont eu vent de votre aventure ?
Comme un peu folle, bien sûr. Et souvent, ils ne comprennent pas, surtout les gens qui vivent dans ces endroits très ruraux, très isolés. Ils se demandent pourquoi est-ce qu'on aura envie de faire ça, de passer 13 mois dans la nature à cheval. Souvent, ils ne comprennent pas très bien que ça peut être un désir, que ça me plaît de passer 13 mois dans la nature, même d'avoir des difficultés, d'être isolé, etc. Et puis oui, ils pensent que je suis un peu folle, mais ils sont tous prêts à m'aider et être très gentils et généreux.
En même temps, alors c'est vrai que c'est une culture du gros camion, où on fonctionne bien sûr avec de l'essence et pas des chevaux, mais vous le dites, les gens sont tellement isolés les uns des autres dans ces ranchs que tout le monde sait tout faire, tout le monde sait se débrouiller avec beaucoup d'habileté dans la nature, non ?
Oui, énormément. En anglais, on dit resourceful, je ne sais pas comment.
Mais c'est ça, on est plein de ressources en fait.
On est plein de ressources, tout à fait. Il faut tout savoir faire parce qu'on est tellement loin de gens qui puissent faire un dépannage sur une voiture. Ou
c'est ça, là on n'appelle pas le garagiste ou le plombier. Hein.
Non, pas du tout. Mon mari peut tout faire de ses mains et il y a une série sur le ranch. Ils peuvent tout remonter, démonter, les voitures, les machines, etc. Il y a un vrai savoir-faire de subvenir à tout besoin dans la ferme et de pouvoir faire tout tout seul là où on est. Donc pareil, l'eau et l'électricité viennent, c'est pas de mines, ça vient pas, il faut le faire nous-mêmes.
Faire des forages.
Voilà.
Comment grandissent les enfants dans ces ranchs, dans ces exploitations agricoles ? Beaucoup en tout cas voulaient monter vos chevaux, parce que c'est pas si courant de monter des chevaux sauvages.
Oui, des chevaux sauvages, oui, mais eux souvent montent à cheval avant même de pouvoir marcher.
Oui. Ce qui était votre cas pratiquement, non ? Vous avez commencé à monter à cheval très très jeune.
Jeune, mais pas aussi jeune, j'ai commencé à 5 ans.
Oui.
Les enfants dans ces fermes assez isolées sont incroyables. Ils ont ils grandissent et ils ont une vie en vraie harmonie avec la nature, il y a une vraie poésie de leur appréciation de la nature et de la manière dont ils se débrouillent. Mais surtout, ils sont extrêmement responsables. À 5 ans, ils sont sur un quad tout seuls en une moto. Et puis ils travaillent, ils font beaucoup de travaux de la ferme, ils aident énormément. Donc ils grandissent et ils sont très matures dans leur tête très vite et ils savent faire plein de choses, c'est incroyable.
Comment on va à l'école quand on habite dans un ranch à 1 heure de route du premier village? C'est le cas de votre famille à l'heure actuelle?
Oui, nous on a 1h30 de la ville la plus proche, mais par exemple Mitch, lui quand il a grandi, il était à 6h de la ville la plus grande. Donc ils font l'école à la ferme ou... Ils prennent un bus, donc un bus pendant 1 heure, parfois plus, pour se rendre à l'école. Et puis, il n'y avait pas de collège, donc à 12 ans, lui, il est allé en pension, qui était à 8 heures de route. Donc il rentrait chez lui 4 fois par an, c'est tout. Je pense que ce sont des enfants qui sont extrêmement bien dans la peau, qui grandissent de manière hyper saine, je trouve, de grandir avec des choses simples, d'être capable de faire autant de choses, de subvenir à leurs besoins eux-mêmes. Je pense pas qu'ils soient moins sociables, au contraire, je pense que ce sont des personnes qui grandissent pour être des gens très à l'aise et très bien dans leur peau. Mmh.
Vous avez décrit pas mal de conditions climatiques difficiles durant votre périple, hein, on l'a entendu. Est-ce que vous avez développé une conscience du réchauffement climatique en Australie où vous étiez déjà parfaitement au courant de tout ce qui se passait? Parce que c'est vrai que l'Australie est particulièrement touchée par le réchauffement climatique, par la sécheresse, vous en avez parlé. Vous parliez de neige en plein été, à une saison il ne devrait pas neiger normalement.
Oui, absolument. Je le savais déjà avant de partir, mais c'est vrai que sur le trail et en vivant dans le Queensland où on est maintenant, les changements climatiques sont vraiment effrayants en Australie. C'est foudroyant combien on a de problèmes avec ça, notamment des sécheresses très très graves, des inondations très très graves, des cyclones, des feys qui sont vraiment beaucoup plus extravagants qu'auparavant. Et dans la ferme où on vit maintenant, nous, on vient de subir une vraie sécheresse pendant l'été, où c'est normalement la période des pluies. Donc sans cesse, ces gens qui vivent isolés, qui vivent des terres et de leurs animaux, doivent faire face à ce climat très très difficile et qui change énormément. C'est pas facile pour les fermiers, c'est très difficile. Là, on a eu des inondations notamment très très graves pour des fermiers qui, dans l'Ouest, ont énormément de difficultés pendant des années et des années de sécheresse et qui tout d'un coup ont reçu des inondations de fous qui ont tué tout leur bétail qu'ils avaient réussi
à sauver
de la sécheresse. Donc c'était une période très très triste ces derniers mois grâce à ce fait.
Et aujourd'hui, alors, Aliénor Legouvello, qui êtes-vous exactement? Une Française en Australie, une femme de Bushman?
Oui, je suis tout simplement une Française en Australie qui aime la nature, les gens, découvrir d'autres cultures. J'ai vraiment eu une expérience magnifique de travailler pendant plus de 10 ans dans les communautés aborigènes et j'ai été très privilégiée à cette culture.
Vous avez d'autres projets professionnels où vous vous occupez de votre petit garçon qui vient de naître il y a 3 mois?
Oui, là je m'occupe de mon petit garçon et puis j'aime beaucoup la vie de ranch, ça me va très bien pour l'instant.
Pour l'instant, vous avez dit?
Pour l'instant, je pense que j'aurai d'autres projets dans le futur, mais pour l'instant ça me va très bien.
Pour élever votre petit garçon, qu'est-ce que vous lui raconterez de ce que vous avez vécu? Ce que j'ai vu et vécu dans le bush, ce sera quoi?
Je lui raconterai tout. Et puis je lui raconterai beaucoup d'histoires d'aventures et de femmes qui font des choses intéressantes. Je trouve que c'est important pour un jeune garçon d'apprécier ce genre de choses. Et puis on ira faire des aventures ensemble, évidemment.
Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va vous présenter un autre aventurier dans quelques instants, un jeune garçon. Alors lui, il a embarqué en mer, non pas avec un cheval, ça aurait été compliqué en mer, mais avec une poule pour compagnie de survie.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est 7 milliards de solutions possibles.
Communiquons le plus possible.
Plus qu'une émission, c'est devenu une famille.
Tout part d'un rêve, tout part d'un rêve.
C'est 7 milliards de cœurs qui se mettent en commun pour qu'on n'en forme qu'un seul.
Je vous propose une autre aventure autour du monde maintenant, animalière également et singulière. À 21 ans, petit dernier d'une famille de 8 enfants, Guirec Soudé quitte son île en Bretagne pour faire le tour du monde sur un voilier. Il part accompagné d'une présence assez surprenante, Monique. Monique est une poule et elle va partager sa vie pendant plus de 4 ans. Cette traversée l'a menée dans les Caraïbes, au Groenland, au Canada, en Antarctique, en Afrique du Sud. Charlie Dupiot l'a rencontrée sur Terre à l'occasion de la sortie de son livre « Guirec et Monique » aux éditions Artaud. Monique, ou Momo d'ailleurs, pour les familiers. Elle est dans les parages, mais elle est intimidée par le micro.
Eh ben, donc moi, j'ai grandi en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, sur une petite île. Et depuis mon premier bateau, en fait, j'ai eu à l'âge de 7 ans. Et c'est vrai que je passais plus de temps en mer que sur terre. Et je me souviens de moments où je me levais à l'aube à 5h, 6h du matin et je rentrais le soir à 22h. Pour partir me balader, pêcher, tout ça. et je rêvais d'une chose depuis toujours, c'était d'acheter un voilier et de partir à la découverte de nouveaux pays, de nouveaux océans. Donc moi j'étais pas très scolaire, j'ai fait 13 écoles un peu partout en Bretagne, parce que je me suis toujours ennuyé. Et donc à l'âge de 18 ans, j'étais en première et je décide de partir en fait en Australie. J'avais une petite moto à l'époque, je l'ai vendue pour me payer un billet d'avion aller. Et je suis arrivé là-bas sans un sou, sans parler un mot d'anglais. Donc c'est vrai que le début était un petit peu compliqué, je dormais dans la rue à Sydney. Puis ensuite je me suis enfoncé un peu dans les terres à l'ouest, une ville qui s'appelle Orange. Et là j'ai fait plusieurs boulots dans la cueillette de fruits. Et avec mon premier salaire, je me suis acheté un vélo. Ensuite, avec ce vélo, je suis reparti à Sydney. Et ensuite, j'ai fini sur des gros crevettiers à partir 3 semaines en mer, à travailler 20 heures par jour. Donc, c'était quelque chose d'assez physique, mais qui me permettait de gagner pas mal de sous. Parce que donc, j'avais toujours ce projet d'acheter ce bateau. Et je m'étais même dit pourquoi pas le trouver en Australie et rentrer en France à la voile. Et donc, j'en ai cherché un là-bas. Je n'ai pas réussi à en trouver vraiment ce qui me convenait. Donc, j'ai préféré rentrer en France en avion. Et à 20 ans, j'ai trouvé un bateau en France avec lequel je suis parti en fait faire ce tour du monde.
Vous achetez un bateau, un voilier de 10 mètres.
Exactement, ouais.
Et vous dépensez 29 000 euros.
C'est ça, ouais.
Ça, c'était vos économies d'Australie.
D'Australie, ouais, c'est ça. Donc j'ai pu gagner pas mal de sous là-bas. J'étais second capitaine en fait sur le crevettier. Puis je mettais tout de côté en fait pour mon bateau. Bon, bah moi j'ai un bon sens de la mer, mais tout ce qui était bateau comme ça, gros, habitable, j'y connaissais vraiment rien. Donc c'était nouveau. Donc j'en ai fait 1h30, 2h seul. Et ensuite je suis parti parce que pour moi il y a toujours une bonne excuse pour pas partir. Et surtout, je me disais, mais de toute façon là, si je commence à travailler sérieusement, me mettre dans la vie active, pour moi ça va être une bêtise parce qu'après les choses vont s'enchaîner en fait. Puis je suis parti sans un sou en poche parce que dès ma première escale en fait en Espagne, j'ai dû travailler pour me payer le port et puis un peu de nourriture.
Est-ce qu'avant de partir néanmoins, vous pensez au risque, vous avez une certaine appréhension?
Ou je pense au risque, si on pense à tout ça, on n'y va pas, évidemment. Après, moi je suis parti en suivant une route à peu près basique, ça veut dire, l'idée c'était de traverser l'Atlantique pour arriver dans les Caraïbes, donc en suivant les alizés, des vents dominants, ça se passe toujours plutôt bien, quoi. Après, moi, mon père avait traversé 2 fois l'Atlantique il y a longtemps en équipage, donc je me souviens beaucoup de ses histoires. J'étais aussi fier, par exemple, de montrer à mon père que j'ai perdu malheureusement quand j'étais en mer, avec tout le mal qui se donnait pour moi, qu'il n'y avait pas que les études dans la vie, qu'on pouvait s'épanouir différemment.
Donc le premier défi, c'est cette traversée de l'Atlantique vers les Antilles.
Oui, ouais, c'est ça.
Et avant cette traversée, vous faites étape aux Canaries, au sud de l'Europe, et c'est là que vous rencontrez Monique, qui est à côté de nous.
Ouais, j'ai ça, Monique. Donc moi, avant même d'avoir mon bateau, je rêvais de partir avec un animal. J'avais pensé à un chien, mais je me suis dit, le chien, bon, ça prend de la place, ça va être compliqué sur un bateau, les chats, c'est pas trop mon truc. Je me suis dit, ah, mais une poule, ça peut être trop sympa, et puis surtout avoir des œufs en mer. Je trouvais ça génial, parce que c'est vrai que la nourriture, quand on est dans l'océan pendant des semaines, c'est un réel problème. Et donc je m'étais renseigné auprès d'experts, on m'avait dit, mais une poule stressée, ça peut pas pondre, donc sur le bateau ça peut pas marcher, quoi. Et c'est quand je suis arrivé aux Canaries, juste avant de partir pour cette grande traversée, je me suis dit, il faut absolument que j'en trouve une. Puis je m'étais fait des copains sur place qui m'ont présenté Monique, et puis on s'est tout de suite super bien entendu. Et dès le premier jour sur le bateau, elle a pondu un œuf, donc comme quoi elle était super à l'aise. Et après elle m'en a fait 25 sur les 28 jours de traversée, quoi.
Alors, avec Monique, vous lui parlez, vous lui construisez une cabine à l'arrière du bateau.
Ouais, une cabine, plutôt une cabane, quoi. Faut pas exagérer non plus. Hein, ça. Bah, Monique, c'est une poule, entre guillemets, je veux pas dire basique, mais c'est une poule qu'on a l'habitude de voir un peu partout. C'est une poule rousse, on appelle ça les Redwood Island. Donc, une pondeuse, une très très bonne. Monique, c'est un spécimen à part, hein, ça c'est certain, quoi. Mais je l'avais dit, je traverse l'Atlantique, et puis je vais jusqu'aux Caraïbes, et puis si ça me plaît, je continuerai. Mais dans ma tête, j'avais déjà ce projet de partir dans les glaces et de partir partout, et j'ai toujours en fait rêvé de toucher la glace de mes propres mains et de voir des ours polaires, des aurores boréales. C'est aussi pour ça que j'ai pris un bateau en acier, parce que quand on va dans les glaces, il faut un bateau en métal, quelque chose de costaud. Là on a fait route vers le Groenland, et je me souviens de cette nuit avec ces aurores boréales en mer, et le lendemain un iceberg, le premier qu'on avait jamais vu. Mais c'était une sensation de folie, quoi. Et, à naviguer entre des icebergs, pour moi c'était une histoire dans des livres, mais pas quelque chose de réel, quoi.
Monique et ses œufs vous aident aussi à vous faire accepter en fait, notamment dans le village de Sakak.
Ah oui, de Sakak, ouais, le petit village, on a passé pas mal de temps dans la baie de Disco. Et là c'était assez rigolo parce qu'au Groenland, en fait, comme la terre est gelée 70% de l'année, ils ont jamais vu de poule vivante. En fait, ils connaissaient pas ça, sauf dans leur assiette. Et dès que j'ai commencé à offrir un œuf à quelqu'un, ils sont passés le message et tout le monde voulait goûter aux œufs merveilleux de Monique. Il faut savoir que le Groenland, c'est la plus grande île du monde. Il n'y a que 60 000 habitants, c'est que des petits villages de pêcheurs. Ils m'ont même appris à dépecer un phoque, parce que pouvoir chasser aussi, même si j'ai jamais réussi à tuer d'animaux. Parce que l'idée après c'était donc d'hiverner dans les glaces du Groenland, pas loin de Sakak. Pendant plusieurs mois on est resté 130 jours, donc à une vingtaine de kilomètres, mais complètement isolé, donc il n'y avait vraiment personne, pas de moyens de communication, on n'a pas eu de soleil non plus pendant des mois. L'idée c'était de pêcher, chasser pour se nourrir. Moi j'avais que du riz et Monique des graines, donc elle avait même plus de nourriture pour elle que pour moi. Pas de poissons parce qu'il n'y en avait pas là où je me trouvais, sauf si je suis très mauvais pêcheur. Mais non, mais je pense qu'il n'y avait vraiment rien dans cette baie. Et grâce à Momo, je pense que déjà c'était une vraie présence et elle m'a aidé honnêtement à survivre dans ces conditions parce qu'elle a pondu 106 œufs sur les 130 jours. Et en fait, on a hiverné dans une petite baie, donc ça veut dire qu'on est arrivé dans une eau libre, on a attendu que la mer gèle. Et pour se faire vraiment prisonnier de la banquise. Et à partir de ce moment-là, on peut descendre du bateau et marcher sur la mer. On savait que ça allait pas être simple, mais si on avait su que ça allait être aussi compliqué, honnêtement, on n'y serait jamais allé.
C'est intéressant ce que vous dites nous, là, tout le temps, comme si Monique vous aidait.
Ah bah non, mais parce que j'étais avec Momo, et c'est vrai que passer autant de temps seul, tu peux devenir vraiment fou, quoi. Il y avait même des moments, je partais dans des délires. Bah, c'est comme ça, hein, qu'on est seul pendant des mois...
Vous écrivez à propos de ce moment-là, au moment où vous quittez la glace, vous dites « Je crois avoir trouvé ce que j'étais venu chercher, moi ».
J'avais besoin de me retrouver seul, en fait. Seul, coupé de ce monde humain. J'ai pris le temps de bricoler sur mon bateau, d'aller marcher dans plein d'endroits différents, de passer des heures et des heures devant, je sais pas, genre même un phoque, à le regarder, un caribou, à l'admirer. J'ai fait beaucoup de photos, j'adore ça. Quand tu vois les côtes se dessiner après des semaines et des semaines de navigation, t'es heureux quoi, tu te dis waouh, j'y suis arrivé par moi-même. Ouais, non, je suis devenu adulte quoi.
À découvrir Guirec et Monique aux éditions Artaud. Ils sont revenus de leur périple fin 2018. Ils pensent à repartir dès que possible parce qu'une poule vit plus de 10 ans. Je ne savais pas que ça vivait aussi longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'une des rares poules navigatrices au monde. Aliénor Le Gouvello, vous qui avez raconté vos aventures sur la piste sauvage, plus de 5000 km à travers le bush australien, vous vous reconnaissez un peu dans ce qu'a pu éprouver Guirec avec un parcours qui n'a rien à voir, qui est en mer, plus solitaire aussi peut-être encore, bien que le vôtre ait été très difficile.
Oui, oui, bien sûr, on se reconnaît. Je comprends très bien ce que dire quand il dit on devient un petit peu fou quand on est seul. Ces longues traversées de stations dans le centre de l'Australie, parfois où j'étais à pied pendant des jours. Quand le terrain était difficile, au moins ça rendait la journée intéressante, mais quand on est sur des ranchs de pays plat pendant des centaines de kilomètres, avoir la route longue devant nous, rouge, qui s'étend sur des kilomètres devant. Là, ça devient un vrai défi mental tout seul sur la route à marcher, à voir à l'horizon là où on va.
Ouais. Et en tête à tête avec des animaux, quand on est seul, le risque c'est qu'on en fait d'eux des humains presque? Parce que vos chevaux, ils mangent presque dans votre assiette. Hein,
avec vous. Oui, pas presque, ils mangent dans mon assiette souvent.
C'est ça,
oui. Tout à fait. Ils ont un caractère aussi développé que presque des humains. Je les préfère à certains humains même. ça devient mes amis, ma famille, tout. Et en fait, je suis pas vraiment seule quand je suis avec mes animaux. Je me sens pas seule.
Les aventuriers comme vous ont toujours existé, c'est vraiment l'impression, peut-être aussi parce qu'il y a les moyens de communication, mais que vous êtes de plus en plus nombreux à chercher à repousser les limites. Il y a un effet génération ou pas?
C'est une bonne question.
Guirec, il a peut-être il est un peu plus jeune que vous, il a 26 ans, vous avez
34.
Enfin bon, y a quelque chose de aujourd'hui, une sensibilité.
Oui, je pense que vis-à-vis du fait qu'on a un monde qui va à une telle vitesse avec tant de technologies, etc., que je pense que notre génération a besoin parfois de revenir aux choses simples, de ralentir un petit peu et de se retrouver dans la nature pour se retrouver. Moi, ça n'a pas été ma démarche. J'aime la nature, les défis, etc. Je ne suis pas partie pour me trouver. Mais je peux comprendre que quelqu'un ait besoin de faire ça, que c'est quelque chose d'important. Et quand on fait partie d'une génération où tout va tellement vite, se retrouver dans la nature, c'est une expérience assez extraordinaire.
Et justement, on va en parler aussi. Vous parliez du changement climatique, de l'environnement aussi, parce que vous êtes forcément beaucoup plus sensibilisé aujourd'hui. On va accueillir pour notre rendez-vous mensuel avec le magazine Marie-Claire Sonia Després dans quelques instants.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
On est en ligne avec le magazine Marie-Claire pour notre rendez-vous mensuel. Bonjour Sonia Després.
Bonjour.
Vous signez un article sur la conscience environnementale des enfants. Comment vous avez abordé ce sujet pour ce magazine féminin ?
Alors c'est surtout sur les adolescents plus que les enfants. Mmh. Et on est parti de Laura de Greta Thunberg, la jeune Suédoise qui a lancé des grèves pour le climat, des grèves scolaires.
Oui.
Et qui a entraîné dans son sillage des jeunes gens, plutôt des jeunes filles d'ailleurs, dans le monde entier. C'est vraiment un phénomène considérable. Et on a voulu comprendre pourquoi. Est-ce que c'était bien que des enfants de 16 ans s'engagent pour le climat ? Est-ce que c'est pas aux adultes de le faire ?
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Je crois que c'est l'optimisme de ces jeunes gens, qui finalement sont peut-être mieux informés que nous, maîtrisent mieux les outils de communication que nous, les réseaux sociaux, au point que une historienne, Ludivine Bantini, m'a dit qu'il y a carrément une inversion, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où la jeunesse commence à enseigner aux adultes, aux parents, ce qu'il faut faire. Donc une inversion de la transmission, et puis voilà, cette espèce d'optimisme et de joie qui accompagne ces mouvements très engagés, qui, moi, m'a fait du bien, en fait, à constater, parce qu'ils sont à la fois lucides et optimistes, et ce qui est le propre de la jeunesse, en fait. Hein,
mais, voilà. Vous le disiez, c'est vrai que pour la première fois, c'est la jeune génération qui fait preuve de... Alors, il y avait cette inversion dans la transmission sur les nouvelles technologies, mais ça restait uniquement sur la technologie. Et là, pour la première fois, c'est la jeune génération qui fait preuve de plus de maturité que les adultes. Certains intellectuels en France se sont inquiétés, d'ailleurs, de ce renversement de l'ordre naturel des choses.
Bah justement, cette historienne Ludivine Bantini, qui étudie la jeunesse, donc ça c'est son sujet, elle trouve que c'est l'inverse, c'est-à-dire que elle dit que la jeunesse a toujours historiquement joué un rôle de, à la fois de sauvegarde, si vous voulez, de la société. Donc elle m'a donné des exemples et elle dit aussi que ce moment où les jeunes gens de 16 ans s'engagent peut-être plus que leurs aînés est un moment d'apprentissage extraordinaire sur le plan de la vie, du vivre ensemble, et que ça fera des adultes. Faire une grève scolaire pour faire ça, si on s'implique vraiment, ça vous apprend autant, voire plus, que d'aller à l'école, finalement.
Mmh. Aliénor Le Gouvello, est-ce qu'en Australie, où le changement climatique a des impacts très notables, très médiatisés, est-ce que la jeune génération australienne, par exemple, se sentent proches de Greta Thunberg, la suédoise, qui fait un malheur, qui est une star en Europe auprès des jeunes, auprès des adolescents? Est-ce que il y a une résonance en Australie où il y a d'autres idoles, d'autres stars adolescentes qui se mobilisent pour le climat?
Alors pour être honnête, de savoir si Greta a un vrai impact en Australie, je ne sais pas vraiment vous dire. Mais nous en Australie, on est très loin de tout. Donc il faut vraiment se rappeler de ça. On est une île éloignée à l'autre bout du monde, de tout le monde. Mais moi personnellement, je suis extrêmement admirative de cette jeune fille. Et je trouve que sa passion, sa pertinence, son éloquence quand elle parle, etc. à son âge, c'est juste incroyable. Et puis surtout que c'est vraiment un wake-up call pour nous les adultes, que vraiment ça nous réveiller les adultes, qu'on devrait avoir honte que ça soit une jeune fille de 16 ans qui fasse une démarche comme ça, plutôt que nous les adultes qui prennent les choses un peu plus au sérieux et qui commençons à nous bouger.
Ouais.
En Australie, ils sont très conscients de l'environnement, parce que d'abord, la nature, c'est vraiment dans le grand sens l'environnement, la nature en Australie, c'est ce qu'on a nous à nos portes, vraiment partout. Et ils font extrêmement attention dans différentes mesures, mais des petites choses simples comme le recyclage, etc. Tout ça, c'est des choses, la pollution, dont on est très conscient en Australie. Après, les adolescents eux-mêmes, vraiment, je ne sais pas plus vous dire.
Ouais, le débat porte surtout sur les mines de charbon, l'exploitation des mines de charbon en Australie, où là, c'est compliqué.
Ouais.
Je pense que la génération qui porte ce combat a aussi compris que c'est un combat social, puis vous savez, il y a eu les gilets jaunes en même temps qui disaient la fin de mois plutôt que la fin du monde. Les gens à qui j'ai parlé l'ont compris. Donc les jeunes gens les plus impliqués sont plutôt des gens issus de catégories sociales favorisées, mais ils ont compris qu'il faut aller vers les autres, leur expliquer, leur faire comprendre les enjeux. Voilà, j'ai eu l'impression d'une maturité très intéressant.
Ouais, la fin de mois ou la fin du monde, et pourquoi pas les deux, hein, comme degré d'importance. Merci en tout cas à vous, Sonia Després. Le reportage est à retrouver dans le magazine Marie-Claire. Merci à vous, Aliénor Le Gouvello, sur la piste sauvage, plus de 5000 km à travers le bush australien. C'est paru aux éditions Artaud. On vous laisse quitter la France, repartir pour votre ranch en Australie. Est-ce qu'il y a peut-être une chose qui vous manquera de la France?
Ma famille, elle est la culture française, l'histoire, les beaux bâtiments, l'architecture, tout ça. On n'a pas beaucoup de ça en Australie. Je vous remercie beaucoup, Emmanuel.
Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Bien sûr, vous réécoutez toutes nos émissions sur l'appli RFI, Pure Radio en podcast également. 7 milliards de voisins. Demain, ce sera un sujet plus trivial, mais ô combien vital, le panier de la ménagère. Où en est le pouvoir d'achat en Afrique? On attend vos témoignages, les voisins et les voisines. Votre pouvoir d'achat progresse-t-il? Racontez-nous sur WhatsApp 33 1 84 22 71 71. À demain.